toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Nous sommes chaque semaine ensemble pour 30 minutes. Moi je lis et avec vous je partage. Pour y arriver en grand, je chronique les ouvrages que j'ai aimés. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait là et qu'on ait l'ivresse, ça peut être des romans, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des albums pour les enfants. J'interviewe les auteurs quand c'est possible. Et puis, mon truc en plus à moi, c'est de vous proposer une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer différemment les émotions qui auront été les miennes pendant la lecture. Histoire aussi d'essayer de toucher... ceux qui ne sont pas forcément d'emblée sensibles à la lecture et de les amener à ces moments différemment. Au sommaire de ce numéro, un roman français fort, un roman sur l'enfance, la famille, la fratrie, un roman pudique, un roman funambule qui danserait sur un fil tendu très haut au-dessus de nos têtes. Ce roman s'intitule La Sainte Famille, il est signé par Florence Sévos aux éditions de l'Olivier et il est sorti à la fin de l'été pour la rentrée littéraire. Et comme j'ai beaucoup de chance, d'ici une poignée de minutes, Florence Sévos répondra pour vous et moi à toutes mes questions au sujet de son magnifique roman. Mais d'ici là, écoutez plutôt comment moi je vous le dirai ce roman. Hard not to make other plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. Must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. 'Cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day, it's hard. Hard when you're here all alone and everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left. You've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter and twisted unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. You know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. Voilà, c'était Yann Tiersen et ses jours tristes pour vous dire toute la force de ce roman de Florence Sévos qui s'intitule La Sainte Famille et qui vient de sortir aux éditions de l'Olivier. Les jours tristes, parce que j'y entends, moi, dans la musique de Tiersen, les relents de l'enfance et puis une sorte de
comme un regret, une amertume, une tension, des moments durs aussi que l'on traverse, et puis les beaux moments aussi, la force des liens, la force de ce qui s'altère, et la force de ce qui reste, car il est bien, bel et bien question de tout cela à la fois dans le roman de Florence Sévos. Son roman nous met face à Suzanne et puis Thomas, son frère, dans leur enfance, et disons que le roman est plutôt posé sur le point de vue, il repose sur le point de vue de Suzanne, l'aînée de cette fratrie, bien que quelques chapitres fassent écho à la voix de Thomas, qui lui aussi raconte. Sévos nous les présente enfants et nous allons accompagner leur trajectoire jusqu'au début de l'âge adulte. Autour d'eux, une galerie de personnages, des adultes pour la plupart, mais pas que. Leur famille, tous un peu inquiétants dans leur dimension adulte, tous un peu toxiques dans leur dimension décisionnaire, autoritaire. Une mère aussi qui partira, un père un peu comme une ombre, une cousine tyrannique, un oncle vulgaire, obscur et assez angoissant, une grand-mère malade. Florence Sévos nous les montre au travers de souvenirs tout au long de cette enfance qui se voit porter des sortes de coups de canif dans son innocence par ces adultes en question. Et puis, au cœur de cette galerie, une grand-tante qui présente tous les stigmates de la simple d'esprit et qui sera celle pour qui ces deux enfants, Suzanne et Thomas, représentent absolument tout, à tel point que quand la vie les séparera, eux et elle, elle en tombera littéralement malade. Moi, ce personnage de Suzanne, cette petite fille tiraillée, nous y reviendrons entre le sacré et une fascination pour l'obscur. Je vous la dirai bien comme ça, en fait.
Floating away.
C'était Dead Man Bones avec Buried in the Water pour vous dire le personnage central, cette petite Suzanne, tout à la fois grave, légère, lumineuse et obscure, responsable plus qu'il ne le faudrait de son petit frère Thomas dans une famille qui pose tant et tant sur les épaules des enfants comme toutes les familles, qui accélère tant et tant l'arrivée dans l'âge adulte comme toutes les familles aussi. L'écriture de Florence Sévos, c'est au-delà de ce que je ne pourrais parvenir à vous le dire, mettre en lumière cette justesse de la vision de l'enfance par l'enfant. Immédiatement, les images, les souvenirs refluent, la lumière des vacances de l'été, l'angoisse de ces moments dont on sait, enfant, qu'ils ne devraient pas parvenir jusqu'à nous, le gigantisme des adultes, de leur part d'ombre, qui peut tout autant nous écœurer que nous fasciner. Et c'est exactement ce que vit au fil des ans Suzanne, et ce, même au contact des autres et de l'aspect religieux, puisque la famille est croyante et que cette dimension-là, dans la vie des enfants, cette dimension non choisie par eux, imposée et importante, elle est inscrite dans leur quotidien. Naissent alors des scènes splendides de questionnement, d'observation, de rejet et d'adoration, et toute la force du roman réside dans ces interstices exactement. Mais pour vous en parler mieux que moi, j'arrête tout et je reçois Florence Sévos. Florence Sévos, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Requin Page. La Sainte Famille est, je crois, votre cinquième roman pour les adultes en tout cas. Dites-nous un peu comment il est né ce roman-là.
Ce roman, il vient d'assez loin parce que d'une part, il y a des choses dans un roman qui était paru en 95 qui s'appelait Les Apparitions, qui était un petit peu les prémices de la Sainte Famille. Ça m'arrive parfois d'avoir un personnage qui arrive dans un livre et puis je sens que plus tard je vais le reprendre et lui donner plus de place. Et c'est ce qui s'est passé avec la Sainte Famille. Et puis il y avait des notes que j'avais depuis longtemps aussi, depuis parfois 15 ans. Peut-être parce que c'est un livre qui est beaucoup basé sur les sensations et les émotions de l'enfance.
Les souvenirs, oui. Votre roman raconte l'histoire de Suzanne et son frère plus jeune Thomas, de leur enfance, par les souvenirs jusqu'au début de l'âge adulte. Je dirais surtout qu'il raconte ces moments du point de vue des enfants où les autres, les adultes de la famille, mais aussi certains autres adultes ou d'autres enfants, entrent violemment dans cette bulle qu'est l'enfance et par là même, ils accélèrent l'arrivée inquiétante de l'âge adulte. Votre roman raconte précisément comment Suzanne se protège en quelque sorte et vit ces moments d'intrusion assez violente. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Oui, je crois que de toute façon, il y a toujours une violence des adultes par rapport aux enfants, même quand elle n'est pas pas spécialement souhaitée, prévue ou même sans éducation particulièrement violente. Il y a une telle différence. Et le monde des adultes est tellement celui du pouvoir qui n'est pas discuté par les enfants, c'est comme ça. Il y a toujours, c'est toujours une intrusion violente. Et pour moi, le monde de l'enfance qui me vient en premier pour le qualifier, c'est une forme de solitude, un isolement par rapport aux adultes, parce que ce sont deux mondes qui communiquent en fait très peu. Et je crois que la solitude de l'enfance est une solitude très particulière qu'on n'expérimente plus par la suite. On peut être seul en tant qu'adulte, mais ce n'est pas la même forme de solitude. Pour moi, la solitude de l'enfance, c'est une sorte de bulle dans laquelle résonnent extrêmement fort les pensées de l'enfance, ses sensations, l'intensité de l'instant. Et des pensées qu'il craint souvent d'être le seul à avoir.
Oui. Alors pourquoi ce titre ? Et du coup, est-ce que le choix du prénom Suzanne renverrait à la Suzanne biblique dans cette scène où elle prend un bain et où il y a des vieillards qui la regardent ?
j'y ai pensé après, mais non, Suzanne, c'est un prénom qui revient de temps en temps. Qui était déjà dans un livre précédent. Et le titre, je ne l'ai pas trouvé moi-même. En fait, il vient d'un... Je crois que c'est l'un des titres que porte le tableau qui a servi pour l'illustration de couverture, un très beau tableau de Dorothea Tanning. Et sur le moment, j'étais un petit peu hésitante par rapport à ce titre parce que je craignais qu'il soit ironique et ce n'est pas vraiment le ton du livre. Mmh. Et puis finalement, je trouvais que ce titre déjà disait clairement qu'il s'agissait de famille, laissait percevoir que la religion tient une place assez importante, en tout cas dans le comment dire, la vie quotidienne de cette famille. Ouais. Et puis pour moi, il y avait un autre sens, c'est que au fond, même si les relations avec ses parents sont très difficiles, et même si par la suite elle perd un peu, elle s'éloigne de ce frère, de son frère Thomas, dont elle a été extrêmement proche, on sent qu'il y a chez elle un sentiment de sacré par rapport à sa famille, et elle est toujours à la recherche d'un amour parfait qu'elle a le bonheur d'éprouver parfois pour ses proches.
Mmh, mmh. Alors dans cette transition un peu sacrée, je dirais qu'un seul personnage protège l'enfant, c'est cette grand-tante qui est magnifique et qu'on pourrait prendre aussi pour une simple d'esprit en somme, mais qui est aussi la seule à respecter et à aimer l'innocence, celle des enfants, à aimer ses enfants plus que tout. Comme si finalement ses caractéristiques psychologiques faisaient d'elle la seule personne qui parlerait la même langue qu'eux.
Oui, c'est un personnage qu'on pourrait presque prendre pour une simple d'esprit. Et elle était déjà apparue un peu sous une forme différente dans d'autres livres, dès mon premier livre. Et je savais que là, j'avais envie de faire vraiment son portrait et de lui donner plus de place et qu'elle serait vraiment un personnage important. Et c'est une femme, une vieille fille. Elle n'a pas eu d'enfant, elle a peut-être eu une seule histoire d'amour qui a mal tourné, on n'en est pas sûr. Elle est très, très soumise, elle a peur de tout, c'est quelqu'un d'extrêmement angoissé, elle est quasiment l'esclave de sa sœur Marthe. Et en même temps, dès la naissance de sa nièce et de son neveu, en fait, elle sent que toute sa vie est là. Elle éprouve pour eux un amour inconditionnel qui gouverne entièrement son emploi du temps. Tout est fait en fonction des enfants, de leurs horaires. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a du mal, qui ne peut pas exprimer ses sentiments parce qu'elle a toujours peur de tout. Et l'intensité de l'amour qu'elle éprouve pour sa nièce et son neveu reste en quelque sorte sanglée en elle. Elle l'éprouve, mais elle n'ose pas le laisser s'exprimer. Alors il s'exprime uniquement par le temps qu'elle passe avec eux, l'attention qu'elle leur porte, et le souci qu'elle a d'eux, et aussi cette espèce de fusion qu'elle a, où c'est les jeux des enfants, c'est ce qu'elle... C'est un peu son activité préférée. Mmh. Elle ne partage pas d'activité avec les autres adultes.
Mmh, c'est ça. La force de votre écriture réside, je dirais, dans sa justesse, dans sa douceur et dans le fait qu'il y a une espèce de tension et que vous venez toujours nous cueillir là où on l'attend pas, là où on n'attend pas la violence. Je pense par exemple à la scène de quand Suzanne joue aux poupées Barbie, on ne voit rien arriver, on découvre un peu sonner la fascination de Suzanne pour le sombre. Alors si on fait écho au titre, on pourrait dire pour le blasphème en somme, mais cette fascination, est-ce que vous diriez qu'elle est vraiment la sienne, ou est-ce que, enfin, moi je me suis demandé si elle n'était pas non plus ce dont Suzanne essaie de se débarrasser et qui viendrait du monde des adultes en fait.
Ben, ça vient à la fois c'est une sorte de violence, de perversité qu'elle a en quelque sorte engrangée, dont elle a été témoin, dont elle a parfois souffert. Alors, pas forcément toujours venant des adultes. Elle a aussi une très mauvaise expérience avec un garçon de son âge. Et toutes ces choses-là, ça ressort de façon très, très brutale la première fois qu'elle se trouve en présence de poupées Barbie. Comme si les poupées Barbie en fait pouvaient tout focaliser à la fois les pulsions sexuelles, les pulsions sadiques, et ça ressort d'un coup comme ça.
C'est ça. Et puis il y a Thomas et le lien qui unit Suzanne à Thomas, pardon, que l'on va voir ce lien très fort, très nourri, et puis se déliter. Et même si adulte, il leur reste les souvenirs de ce lien, ils ne parviendront pas forcément à en faire quelque chose. Vous avez d'ailleurs choisi sur différents chapitres de donner la voix, la parole à Thomas. Est-ce que ça s'est imposé ainsi ou est-ce que c'est un procédé qui vous servait à des fins précises ?
Alors, au début, je n'étais pas sûre que Thomas aurait la parole. Et puis en même temps, je me suis aperçue qu'il y a des chapitres que j'avais vraiment envie d'écrire de son point de vue à lui. Et c'était... d'une part peut-être pour le faire exister davantage, et puis aussi ça me permettait d'avoir un regard extérieur sur Suzanne et peut-être aussi parfois j'étais moi-même un petit peu j'avais peur d'être agacée par cette Suzanne, et j'avais besoin que quelqu'un la regarde, éventuellement se plaigne d'elle. Et puis c'était une façon, ça me donnait plus de moyens aussi pour parler de ce lien très fort et sur lequel évidemment ils ne mettent pas de mots, ce lien qui les tient quand ils sont enfants et qui leur manque ensuite quand ils sont devenus adultes, et ils cherchent toujours à retrouver cette exaltation, ce bonheur de faire des choses à deux, et ils n'arrivent pas à remettre la main dessus, mais ça leur manque.
Florence Evos, merci infiniment en tout premier lieu pour...
Mais c'est moi qui vous remercie.
Pour ce roman qui est magnifique. Vous n'allez pas couper à la question Rock and Page. Si vous deviez choisir un seul titre de musique pour évoquer votre roman sans en parler, vous choisiriez lequel ?
Il y a un disque avec lequel j'écris beaucoup, et en fait qui a tendance à devenir le disque du livre, ce sont les suites françaises de Bach par Glenn Gould. Peut-être parce qu'il y a un mouvement qui court sans cesse, et je me sers de cette musique pour me faire une bulle et sentir comme une énergie qui court et qui n'a pas envie de se poser.
Mais parfait.
Même dans les moments calmes.
C'est une réponse parfaite. Merci beaucoup. C'était les suites de Bach interprétées par Glenn Gould, choisies par Florence Evos en personne pour évoquer son magnifique roman qui s'appelle La Sainte Famille, qui est paru à la fin de l'été aux éditions de l'Olivier, et qui retrace la vie de l'enfance de Suzanne et Thomas, du point de vue de Suzanne. C'est vraiment très pudique. Je vais vous lire un tout petit bout de l'introduction pour vous donner une idée de l'écriture de Florence Evos. Il y a longtemps, quand je savais la maison vide, il m'arrivait de téléphoner là-bas. Jamais je ne l'aurais fait si j'avais pensé qu'il y eût quelqu'un. J'écoutais la sonnerie dans le combiné, puis, en fermant les yeux, je l'entendais retentir dans le petit bureau. Elle faisait résonner la table comme le vrombissement d'un très gros insecte. Je voyais le téléphone, la table et l'étroite fenêtre ombragée par les branches du cèdre. J'étais soudain dans cette pièce sombre, je retrouvais les photos au mur, celles de mon grand-père que je n'avais pas connues. Je revoyais le placard en fer, je sentais la fraîcheur de la pièce. Puis, m'accrochant à la sonnerie comme à un fil qu'il ne fallait surtout pas lâcher, je quittais le bureau et traversais le couloir. Je visitais les pièces du rez-de-chaussée. La sonnerie du téléphone était le sésame qui me permettait de retrouver la maison, comme on retrouve parfois dans ses rêves une personne qu'on a aimée. Et je pouvais presque prendre possession de ces lieux où je m'étais toujours sentie une étrangère et qui m'habitaient, pourtant, comme une hantise, comme une personne. Je montais l'escalier et j'entrais dans la chambre de ma grand-mère, lumineuse, arrangée avec soin, celle de ma grand-tante, spartiate et meublée de formica. Je regardais les mouches mortes au pied des fenêtres. Lorsque la maison restait fermée longtemps, après l'été, il y avait souvent des dizaines de mouches mortes sur les rebords des fenêtres et sur le parquet. Puis je montais l'escalier qui menait au deuxième étage. La sonnerie devenait lointaine, presque inaudible, mais j'étais si concentrée que je n'en avais plus besoin. Voilà, ça c'est un court extrait de l'introduction de La Sainte Famille de Florence Sévost, où Suzanne, adulte, par ce fil-là, par le biais de l'écriture, va... Enfin, c'est le procédé utilisé par Florence Sévost, va replonger dans les souvenirs pour nous dire ce que c'est, l'enfance vue par l'enfant, et comment on arrive à l'âge adulte. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno de Divergence FM qui a réalisé la technique de cette émission. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez retrouver tous les anciens de l'émission sur le blog qui lui est consacré. Vous n'avez qu'à taper Rock'n'Page dans un moteur de recherche. Allez, à tout bientôt.